priorities. Okay, so the last speaker of this.
Donc notre dernier intervenant de ce matin, Dr Thomas Lengel, qui travaille chez Intel, et il travaille là-bas depuis très peu de temps. Il va nous parler des accueils et des limites de la DMA. Bonjour tout le monde. Je travaille pour Intel. Je suis chercheur. Et je travaille aussi avec le projet Olinet. Et je maintiens Zenlepium, Drakov, qui sont des projets open source. Je ne parle pas ici de la part d'Intel, mais c'est à partir de ma propre recherche que je vous parle. Je vais vous parler de quoi aujourd'hui? Je vais parler du pourquoi. Pourquoi faire cette analyse dynamique? Alors, je vais vous donner tout un jeu de problèmes et d'écueils que j'ai rencontrés pendant de longues années. Et puis, je vais vous laisser quelque chose à apprendre avec vous à la maison. Donc, en bref, à l'heure. C'est facile de créer des malwares binaires. C'est facile, c'est peu cher. Il y a plusieurs types de paquets pour les binaires. Et une fois que le binaire est différent, vous ne pouvez pas appliquer les mêmes empreintes et même les impact codes. Une fois que vous avez fait le code, ça peut être obfusqué. Ceci est dans le but de rendre plus difficile l'ingénierie reverse et travailler le malware qui peut se construire, etc., etc. Donc, ce n'est pas simple, parce que c'est facile d'identifier si un code est malveillant ou pas. C'est pas du tout facile, comme vous savez tout. Cela dit, depuis un petit mois, nous avons essayer de blacklister beaucoup de produits comme malware, mais pour la plupart, beaucoup de impact code n'est pas malware. Donc, l'analyse dynamique, qu'est-ce que c'est? Pour que le malware réussisse, il faut que ça fonctionne, évidemment. Si ceci ne fonctionne pas, ce ne sera pas malveillant. Donc, une fois que c'est exécuté, vous avez le code et vous pouvez emprunter le code et mesurer son impact. Bien sûr, même le mauvais code est obfusqué, donc c'est difficile de les emprunter et de faire des empreintes. Donc maintenant, il faut essayer de peut-être cartographier le comportement du malware, observer son exécution en termes de l'impact qu'il a sur l'OS, sur l'environnement, et prendre une empreinte de ceci, utiliser ceci pour essayer de créer du profit. Pour ce faire, qu'est-ce que nous faisons? Nous passons par certaines propriétés quand il faut faire l'analyse. L'isolation, la vitesse, l'interposition, la fidélité, l'interprétation, parce qu'évidemment, il faut comprendre l'échelle, la taille de cette habilité. Il faut avoir un système à l'échelle de tous les malwares. Il y a des milliers de malwares disponibles. Si vous n'êtes pas à la hauteur, vous allez rater quelque chose. Et le malware passe inaperçu. Donc, comment observer le code? De la façon standard et d'utiliser les debuggers. Vous avez des exemples devant vous, Vengrind, Vendebug, etc. Mais ces éléments n'étaient pas conçus pour faire face au logiciel ou à malware qui ne veut pas être déniché. Donc, ils n'ont pas des propriétés de vitesse, et ils n'ont pas de périmètre de sécurité, ces debuggers. Et à cause de cela, c'est facile de les désidentifier, de l'isoler. Et il y a l'effet observateur, donc le malware peut dépasser ces debuggers. Donc, il faut essayer peut-être de créer un émulateur qui vous fournit un aperçu du processus, de ce qui se passe au cœur du processus, parce qu'il y a énormément d'outils ou d'émulateurs qui pourraient être utilisés pour l'analyse du malware. Et l'un dont je vous parlais, c'est le Quilling Framework, donc ce cadre Quilling qui est sorti la semaine dernière. Je vous conseille vivement d'aller analyser un peu ce cadre. Ça a l'air d'être super. Mais encore une fois, il n'y a pas de périmètre de sécurité, donc je vous conseille d'utiliser le VM pour faire vos analyses. Détecter les émulateurs est une tâche facile, vu la mise en place des émulateurs de façon correcte, parce qu'il y a plusieurs façons, si vous voulez, pour vous gourer. Le software, le logiciel est très complexe et le malware peut détecter si vous n'êtes pas précis dans ce que vous faites. Il y a une million de façons de le faire. Une autre façon de faire alors, c'est de mettre votre code dans le système, dans l'OS. Vous aurez une meilleure protection aussi du matériel. Mais pour le faire, la plupart des noyaux modernes ont besoin des noyaux signés. Donc il faut que ce soit signé par Microsoft si vous voulez faire des analyses sur Windows. Et ça, c'est douloureux comme processus. Mais si vous arrêtez ceci, si vous l'arrêtez, c'est détecté par le malware et l'OS va limiter ce que vous pouvez observer. C'est difficile de nettoyer si vous avez un malware qui pourrait rentrer dans l'OS. Un nouvel outil qui a été utilisé par Microsoft, c'est le bac à sable Windows, donc Windows 10. Facile à mettre en place, il utilise Hyper-V et crée une copie sur écriture, un clone du système opérationnel. Je pense que c'est très fort pour l'analyse de malware, mais il faut passer par l'API et on n'a pas d'API pour vraiment surveiller ce qui se passe au niveau du noyau ni de l'hyperviseur. Donc l'introspection de l'hyperviseur, c'est exactement ça. Il faut utiliser l'hyperviseur. C'est l'échelon, la couche la plus basse dans le système. Donc c'est assez standard comme pratique. Et l'idée est, que c'est facile de détecter la virtualisation. La virtualisation est tellement répandue aujourd'hui. C'est simplement parce que tu arrives à l'identifier et que le malware va réagir ou que vous allez avoir une protection tout de suite. Et c'est très difficile de détecter quand il y a de l'introspection parce qu'il faut avoir une bonne isolation, une très bonne visibilité. C'est facile de nettoyer à post-analyse. Il faut simplement remettre le VM et vous êtes à l'abri. C'est très compliqué, en fait, et compliqué de développer. Le problème principal avec l'introspection est que vous analysez le VM de l'extérieur. Vous n'avez pas votre propre code pour le VM. Donc, vous êtes en train de reconstruire tout à partir de l'extérieur. Donc, où est-ce que vous pouvez avoir confiance? Dans quelle partie? Dans l'infrastructure? Ça peut être peu fiable si le malware est déjà en train d'attaquer ce que vous essayez de analyser, si vous avez plusieurs CPU. Vous avez des conditions qui sont compliquées, des choses qui vont compliquer aux échelons inférieurs. Vous avez les données qui sont périmées. Il y a des situations compliquées et inhabituelles. Alors, quand on parle de l'accueil à libvmi, nous parlons de quoi? C'est une bibliothèque. J'ai commencé avec cette API au début pour lire la mémoire d'une machine. Et l'idée était de rendre ça plus utile et facile pour l'utilisateur, mais je voudrais également pouvoir lire la mémoire de ce process. Et le VMI va vous donner la table de page pour ce processus, faire la traduction nécessaire et ainsi de suite. Mais le problème, c'est que le PID n'est pas toujours construit. Donc, c'est quelque chose qui est en lui-même très peu fiable. Si vous avez fait un processus et recommencé dès le début et construit un autre, est-ce que vous allez avoir la même table de page? Le PT peut changer elle-même. Donc, il y a énormément d'inconnus, énormément de complications potentielles où on n'arrive pas à trouver les process qui existent dans l'OS, même si le processus fonctionne dans le système. Donc, tout ça est très mauvais. À cause de cela, il y a un nouveau VPI que nous conseillons qui vous fournit avec une façon de définir votre accès à l'espace de mémoire et de spécifier également le numéro de la table de page. Donc, regardons maintenant ces page tables, ces tables de page. C'est un construit de OS c'est le matériel qui utilise tout cela. Donc, quand vous allez chercher les traductions, c'est à travers le matériel. Et l'utilisateur peut changer à n'importe quel moment. À la suite de cela, il est responsable pour les caches. Donc, si la page change, le TLB sera invalidé et ceci est également la responsabilité de l'invité et de l'utilisateur, puisque le matériel va vous permettre de changer la table qui peut résulter dans un TLB partagé. Et donc, il y a une différence entre la table de page et des caches. Vous avez la technologie de tagging, le VPID et PCID. Vous pouvez les garder avec les TLB qui sont partagés. Vous pouvez les garder archivés longtemps dans les caches. Donc, les pages de table elles-mêmes ne représentent pas une traduction précise du processus. Et en plus, il n'y a pas d'instruction pour traduire tout cela dans le contexte du VM avec le processeur lui-même. Donc, vous allez passer par les caches et à cause de cela, vous n'avez aucune façon de vérifier que la mémoire accédée est la mémoire désirée ou la mémoire utilisée par le processus. Davantage, il y a plusieurs problématiques maintenant associées avec le HV et le SW à cause de cette nature, cet élément partagé du TLB. Parce que vous changez la taille de l'octet pendant que vous êtes en train de changer le TLB, il y a un impact sur les CP lui-même. Vous pouvez faire ça en tant qu'invité parce que c'est assez fréquent dans le cloud. Mais bon, tout ça pour vous dire que c'est assez problématique. Le VMI met un TLB de plus, met en place un TLB de plus parce qu'il faut faire toute cette évaluation des pages de table. Donc, ça, c'est encore plus coûteux qu'avec le logiciel. Mais encore une fois, il n'y a pas une façon claire de dire de quand le TLB devrait être invalidé, utilisé, etc. Donc, il faut essayer de devenir, quand vous voulez utiliser le TLB, le logiciel. Ce n'est pas rien, ça peut provoquer des problèmes quand vous avez des traductions qui ne sont pas précises. Alors, les breakpoints. Les points de rupture, c'est de la façon standard pour débugger le logiciel. Vous regardez les extensions. À travers cela, vous voyez que vous pouvez le faire assez rapidement. Il y a plusieurs outils qui essayent maintenant d'avoir un niveau de debugging au niveau des hyperviseurs à travers cet élément, cet attribut. Donc, voyons si ça marche. Avec EPT, l'idée et de créer un concept de mémoire. Vous pouvez marquer quelque chose dans EPT. Donc, si il y a quelque chose qui essaie d'écrire sur la page, vous pouvez attraper cela dans l'hyperviseur et les retirer des pages de code. Remplacez votre point de rupture dans le code et vous pourrez y aller plus loin, bien sûr. C'est un peu compliqué sur les systèmes vCPU. Il faut vraiment retirer les points de rupture du code parce qu'en même temps, vous retirez d'un autre CP que vous pourriez exécuter. Donc, vous allez peut-être rater quelque chose sur les traçabilités. Une façon de contourner cela, c'est au lieu de retirer les points de rupture, vous travaillez au cœur de l'hyperviseur. Il y a une façon de faire. Mais quand vous le faites seul avec l'hyperviseur, ce n'est pas une très bonne idée. Donc, il y a une autre méthode, c'est la shadow memory. Donc, c'est la mémoire d'ombre. Donc, vous créez une copie de la page que vous voudriez faire, où vous voudriez faire un breakpoint et vous mettez ça dans une autre copie pour faire un remapping, une autre cartographie de ce qui se passe avec le PT. Vous envoyez tout ça à la page d'ombre. Le doublant, si vous voulez, c'est ce que vous faites. Vous créez des EPT, vous en avez plusieurs, vous pouvez jouer avec dans le VMCS. Donc l'idée est bonne, il paraît, mais il y a quand même des problèmes. Donc ça, c'est une copie d'écran réelle qui nous prévient sur les instructions read, modify. Donc on peut les lire, échanger et écrire dessus. L'utilisation pour les mutex de façon régulière, c'est une instruction unique qui lit et qui écrit la mémoire. Et ceci est du référentiel pour les instructions, c'est en fonction du CPU. Il vaut meilleur de lire ce qui est écrit. Excusez-moi, je refuse de traduire quelque chose qui lit à toute blinde, comme ça, de loin. Pour ces instructions, il faut vraiment considérer l'analyse dans ZAN. À chaque fois qu'il y a write to memory, quand il faut écrire à la mémoire, nous marquons en rouge, même si les consignes ne sont pas de le faire, parce que vous ne pouvez pas faire la distinction. Vous ne pouvez pas toujours compter sur le matériel. C'est très intéressant ceci. Quelle est la longueur de l'instruction? Vous avez devant vous. La réponse est un octet, vous allez dire. Mais si vous regardez les détails dans le référentiel, dans le guide, vous allez voir qu'il y a un avertissement en parenthèse. Quand vous mettez en place, vous exécutez une instruction et que ça passe à l'hyperviseur, la longueur de l'instruction est reportée et ça peut être entre 1 et 15 octets. Donc ça, c'est assez bizarre. Avec une seule instruction, comment est-ce que ça pourrait être de la longueur de 15 octets? C'est parce qu'il y a des préfixes. Vous pouvez les ajouter. Ils ne font absolument rien. J'ajoute quelque chose à l'instruction numéro 3 et ceci ne change rien du tout, ni le comportement du comportement, sauf pour changer la longueur de l'instruction quand c'est mis dans l'hyperviseur. C'est reporté en tant que taille 1 et donc avec l'hyperviseur, c'est reporté en taille 15. Et c'était un problème parce que la longueur était assumé, on a toujours supposé que la longueur était 1. Donc, si vous voulez réinjecter cette breakpoint, là, c'est là où on rencontre des difficultés, parce qu'un invité pourrait utiliser les points de rupture pour quelque chose, on ne veut pas désactiver l'utilisation de ces breakpoints, parce qu'à ce moment-là, ça va déceler le fait qu'il y a quelque chose quand même qui se passe. Mais vous essayez d'émuler l'instruction. Vous êtes obligé d'incrémenter l'instruction. Et vous avez la supposition que la longueur est de 1. Vous utilisez ce chiffre-là. Et à cause de cela, ce seul breakpoint va déclencher 15 fois. Et ça nous alerte au fait qu'il y a quelque chose qui cloche. Il fallait réparer ça dans Zen 4.8. Mais ils n'ont jamais passé l'information à la suite. Donc, quelque chose qui n'était pas considéré comme important, peut-être. Et ici, c'est même plus intéressant. Vous avez des consignes de breakpoint, donc la mémoire qui est mappée comme exit only. La page elle-même, il faut qu'on puisse écrire sur la page. Pour essayer de détecter s'il y a de l'activité, vous écrivez quelque chose et puis ça n'apparaît pas. Alors ça, tout de suite, vous êtes alerté au fait qu'il y a quelque chose. Donc ce qu'il faut faire, c'est utiliser une instruction mouvante avec un préfixe pour essayer d'identifier quelque chose que vous considérez comme un breakpoint. Nous utilisons Visio, par exemple. Vous êtes dans un registre ROX. Vous avez une instruction à suivre là où vous attendez trouver le breakpoint. Et ceci va trouver l'instruction de breakpoint de la mémoire et vous la ramenez. Et là, ils vont imprimer l'instruction CC. La partie fun est que ça se passe dans la mémoire execute only, sans déclencher le TPU avec la page. La mémoire faisait partie de l'instruction. Alors, les shadow pages sont ces pages d'ombre, ces doublons. Ce sont des pages qui sont injectées à la fin de l'espace mémoire physique du VM. Une copie, les vraies pages du VM, c'est là où on met les breakpoints. Il voulait protéger, on voulait protéger ses pages. Donc, même si quelqu'un voulait scammer le RAM du VM, nous n'allons pas le voir tout de suite. Mais vous pouvez voir s'il y a un code qui ne devrait pas être là quand même. Mais nous essayons de recartographier ces pages à la page 0, donc une page qui était remplie de 0, en pensant que c'est ça qu'on devrait voir quand vous êtes en train de faire un balayage haute mémoire. Mais en fait, c'était une mauvaise devinette. C'était pas très bien parce qu'en fait, quand vous faites un balayage de haute mémoire, vous avez des 1 qui apparaissent et pas les 0. Mais CC nous a amené à poser la question, qu'est-ce qui se passe si vous accédez à une mémoire physique très élevée avec des adresses qui ne sont pas présentes? Bah, Zen va venir rentrer en jeu, mais si vous avez vos tables dans un système d'opération qui est vraiment minime, pour lire les pages qui arrivent de la cartographie et M20, ça, il faut ignorer. Vous allez lire des gammes qui ne sont physiques, qui en fait ne sont pas présentes. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je vous laisse la question. Une autre partie analysée l'année dernière était, est-ce que c'est possible d'avoir 100% stealth avec les hyperviseurs? Et la réponse est non. On ne peut pas avoir ce niveau de discrétion, de furtivité. Des choses prennent toujours trop de temps, plus de temps qu'il fallait. Vous pouvez manipuler les RDTSC et vous pouvez mentir sur le temps utilisé avec RDTSC, mais ce n'est pas la seule façon de mesurer le temps dans le VM. Vous pouvez avoir le thread racing, le temps de latence, le temps de réseau, etc. C'est une façon de mesurer le temps. Tout cela peut dire que ce n'est pas faisable, mais aussi le fait que vous lisez de la mémoire à partir d'une invité externe ou de l'hyperviseur, ceci même introduit les caches qui sont mesurables. Donc, à partir de la mémoire d'invité, un accès est plus rapide que normal. Cela veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que quelqu'un essaie de pirater la page. Il n'y a pas de contrôle. Il y a un contrôle, il n'y a pas d'introspection. Et voilà. Alors, vous faites un zoom, vous vous retirez dessous des détails, c'est quoi? Il nous reste quoi? La question, est-ce que vous pouvez créer un bac à sable réaliste? Qu'est-ce que ça veut dire réaliste? Qu'est-ce que le malware considère d'être réaliste en tant que bac à sable? Mais en fait, là, aujourd'hui, nous sommes toujours en train de deviner, parce que vous pouvez changer la mise en place, vous pouvez changer l'environnement, certes, mais récemment, il y a une étude qui a analysé tout cela et là, ils ont dit que 92% du temps, le malware peut détecter que votre bac à sable n'est pas réaliste. Et ça, c'est très mauvais, évidemment. Et si vous allez un peu plus loin, notre hypothèse était que dans le bac à sable, quand on exécute le malware va fonctionner. Mais il y a un caveat tout de suite. Le malware n'est pas obligé de fonctionner de façon immédiate. Pour un bac à sable, vous voulez faire courir votre malware avec vous voulez une réaction rapide avec un rapport IPDF. Et qu'est-ce qui se passe si le malware dit je vais dormir pendant 3 jours? À ce moment-là, on va faire des tests binaires arbitraires pendant 3 jours qui utilisent des ressources. Donc, que faire? Si j'enlève la fonction en veille, peut-être que ça va marcher, je ne sais pas, mais il y a des millions de façons pour faire en sorte que votre malware dorme dans un système thread racing. Et pour moi, le profil cache CPU ou même l'exécution spéculative, ce sont des façons pour faire exactement cela. Et ça cache la présence de malware, mais on le fait endormir, si vous voulez. C'est mauvais. Tout ça, c'est très mauvais. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous avez votre malware dans le bac à sable, mais vous détectez rien du tout. Bon, vous avez une détection positive, c'est bien, mais si c'est négatif, qu'est-ce que cela veut dire? Ça ne veut pas forcément dire que le logiciel est à l'abri, pas du tout. Ça veut dire que dans le bac à sable, il n'y avait aucune détection lors du contrôle. Et si vous réfléchissez sur cela, c'est que vous êtes en train de faire confiance au bac à sable en disant que l'auteur du bac à sable était plus intelligent du pirate, la personne qui a conçu le malware, qui a, je ne sais pas, il y avait tout ce qu'il fallait, elle avait le profil comme il fallait pour pouvoir contrôler cela. Donc c'est là, c'est question de à qui il faut faire confiance, hein, donc c'est pas top. Est-ce que c'est vraiment tout ce qu'on peut faire? Et encore, la question devient plus compliquée. Est-ce qu'on peut éventuellement résoudre ce problème? Nous avons les problèmes de Halt et de théorème de Rice qui nous explique ce que vous voyez devant vous, que les propriétés des programmes ne peuvent pas être décidées. Comment savoir si quelque chose est malware? Et comment décider si quelque chose contient un code malveillant? Tout cela nous dit quoi? Ce que nous essayons de faire, est-ce que c'est possible? Pourquoi est-ce que nous insistons là-dessus? Mais est-ce que nous avons des machines Turing conçues sous l'hypothèse qu'il y a une mémoire infinie pour ces choses? Bah, évidemment, mon ordinateur portable n'a pas une mémoire infinie. On sait très bien que dans 7 millions d'années, tout ce que nous avons créé aujourd'hui en tant que logiciel n'existera plus. Donc, si vous considérez tout cela, vous avez un matériel peut-être qui est plus réaliste. Certains de ces problèmes deviennent propices à la décision, on va dire. Donc, pour conclure, je ne vois pas la fin de cette histoire. C'est un jeu du chat et la souris, de la souris. Mais tant que nous avons un environnement divers pour détecter tout ce qui existe de différents hyperviseurs, de différentes façons de tout mettre tout cela en place, nous allons continuer. Mais je pense que c'est peu probable que chat malware réagisse de la même façon et qu'on puisse tout contrôler. Je pense que c'est sympa, c'est très bien, c'est sympathique d'avoir toujours les systèmes en place, mais il y a des choses à retenir. Quelque chose qui m'a frappé récemment, que j'aimerais bien mettre en exergue, de Microsoft, ils avaient l'idée de demander que tous les codes soient signés, pas simplement les codes de noyau. Bon, cette idée va changer l'environnement. Hein. Si vous pouvez travailler simplement sur les codes signés, ceci, pour moi, ne va pas résoudre le problème. Tout comme le fait que les noyaux kernels doivent être signés à pousser les hackers, les pirates ailleurs, d'aller chercher dans des couches inférieures, etc. Il y a un impact, certes, mais pas peut-être l'impact estompé. Ceci ne va pas vraiment changer le problème ni le résoudre, mais ça va changer notre façon d'agir. Notre analyse de Microsoft, de Micro Execution Based Testing, et l'idée, c'est que vous prenez des morceaux, des segments de code, au lieu de travailler sur le code en entier, vous prenez des segments, des morceaux, et vous analysez les morceaux de code individuellement pour essayer de comprendre son comportement via l'hyperviseur et la manipulation de ces codes. Et ensuite, le fuzzing. C'est un concept très intéressant pour le malware. Surtout que quand vous considérez que fuzzing, c'est peut-être une façon d'identifier les débris du code. Mais si vous pensez, considérez fuzzing comme l'exploration de l'espace, les crashs, vous pouvez associer les crashs avec est-ce que quelque chose s'est passé récemment dans mon système et pourquoi. Pareil que ce concept de fuzzing va vous donner un modèle de fiabilité qui est beaucoup plus sûr. Avec le fuzzing, vous allez dire, moi, j'ai exécuté ce malware 50 000 fois, donc j'ai un bon niveau de fiabilité et de confiance parce que je ne l'ai pas fait qu'une fois. Donc, ce sont les idées sur la plateforme actuellement. Et sur ce, j'aimerais vous remercier de votre attention. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup.
Oui, il y a une question tout en haut, à gauche.
Merci de votre présentation. Est-ce que vous avez des exemples de comment ça se passe dans les bacs à sable pour les malwares qui passent du DMA, etc., pour l'introspection des machines avec des exemples? Je ne suis pas sûre d'avoir compris la question, dit l'orateur. Si l'introspection va de nulle part, vous avez des alternatives, par exemple, au bac à sable? Bah non, comme j'ai dit, je vois pas la fin, j'ai vraiment pas de solution. Une question? Quelle est votre opinion sur le malware et le biométo, excusez-moi, je n'ai pas compris ce qu'il disait le monsieur. Bah, l'hypothèse est que le malware cherche un système réaliste. Un système réaliste, aussi réaliste que possible. Le problème est comment redémarrer le système pour que vous puissiez avoir confiance dans toutes les analyses de quelque chose qui aurait pu être compromis. On le voit tout le temps, des attaques qui ne sont plus des questions de logiciel. C'est vraiment comment protéger tous les systèmes pour être sûr que votre analyse est correcte, qu'il n'a pas été impacté par une autre exécution de malware ou d'analyse de malware. Je ne vois pas d'autres questions, donc je vous remercie Thomas de cette présentation mais épatante.